Hi! Have a good night, nice to see you!
Grand reportage.
Son nom incarne à lui seul les violences policières aux États-Unis. Le procès de Derek Chauvin s'est ouvert à Minneapolis avec la sélection des jurés. L'ex-policier comparaîtra à partir du 29 mars jusqu'à la fin avril pour le meurtre de l'afro-américain George Floyd. La vidéo de sa mort étouffée sous le genou de ce policier blanc avait déclenché des semaines de protestations dans tous les États-Unis. À Minneapolis, fin mai, les habitants avaient même incendié et détruit un commissariat de la ville. Ce drame a aussi déclenché un vaste débat sur l'avenir de la police. La jugeant trop raciste, certains veulent lui couper les fonds, d'autres demandent même son abolition. Militants, habitants, élus de la ville réfléchissent désormais à des nouvelles formes de sécurité publique, moins violentes et moins meurtrières, alors que la criminalité ne cesse d'augmenter. Après la mort de George Floyd, une autre police est-elle possible? C'est un grand reportage d'Éric De Salve.
Ils ont enfilé leurs gilets jaunes et patrouillent à la tombée de la nuit dans les rues incertaines de leur quartier. Avec leurs caniches en laisse, Ryan, Catherine, Hilary, Pouya et une dizaine d'autres voisins ne ressemblent pas vraiment à des policiers. Pourtant, ces habitants de Minneapolis entendent incarner une police du futur, ou plutôt un futur sans police. Depuis la mort de George Floyd, ces habitants ont décidé d'assurer eux-mêmes la sécurité publique.
And this is Jonathan, one of our neighbors. That is Ryan. Is Connie made a difference from Floyd?
Nous sommes à seulement quelques rues du trottoir où le désormais célèbre afro-américain a été tué. Les images de son agonie sous le genou d'un policier blanc ont fait le tour du monde. Elles ont particulièrement traumatisé ce quartier de Minneapolis. À tel point que ses habitants ont décidé de ne plus appeler la police, trop raciste, trop violente, selon eux. Mais sans police, comment garantir la sécurité? Surtout cet été, au moment où la ville s'embrasait, des nuits d'émeutes, de pillages, suivies d'une explosion de la criminalité. Face au dilemme, Pouya Najmaï, un habitant du quartier, a une idée. Ce quadragénaire, lobbyiste dans les énergies renouvelables, propose à ses voisins de se substituer eux-mêmes à cette police détestée. C'est la naissance du Powderhorn Safety Collective, du nom de leur quartier, un groupe d'habitants qui désormais patrouille tous les soirs, ou presque, derrière Pouya et son dog allemand.
So during the uprisings after George Floyd was murdered,
après le meurtre de George Floyd pendant le soulèvement, c'était juste le chaos et l'anarchie. Au bout de deux semaines, ça s'est un peu calmé, mais il y a eu une vague de crimes et nos voisins étaient inquiets pour leur sécurité. À ce moment, on disait aux gens de ne plus appeler la police, car depuis la mort de George Floyd, on est beaucoup ici à soutenir ce mouvement Defund, qui veut couper le financement de la police. On disait aux gens, arrêtez de faire venir la police dans notre quartier, ça ne va pas nous aider. Et en même temps, il n'y avait pas d'autre option. Alors on a eu l'idée d'une alternative à la police.
Something, a response.
Donnons-leur un truc, un numéro à appeler. Donc on a créé ce Powderhorn Safety Collective. On est non-violent, on n'est pas armé. Notre truc, c'est la désescalade. Pour nous, la sécurité passe par un renforcement des liens entre les gens. C'est comme ça qu'on résout la plupart des problèmes ici.
Comment les habitants vous alertent quand il y a un problème ?
En général, ça marche avec une application qui s'appelle Discord. Le collectif a son propre serveur sur Discord avec des canaux différents pour chaque type de problème. Les gens nous contactent comme ça et ça nous envoie une notification sur nos téléphones. C'est souvent pour des coups de feu, des tentatives de cambriolage, des intrus dans les jardins qui passent par-dessus les grillages des gens. Pour traiter ces cas de figure, une personne armée sans lien avec le quartier n'est pas la mieux placée. Et c'est pour ce genre de choses que les gens nous appellent.
Pourquoi est-ce que vous avez arrêté d'appeler la police?
Parce que beaucoup de nos voisins n'ont pas confiance en la police. La police a la main lourde. La plupart du temps, elle a tendance à aggraver la situation, apportant violence et traumatisme. Ces agents ne sont pas du quartier, ils ne vivent pas ici, et ils ont peur de la population qui vit ici.
They're generally afraid of most people from our neighborhood, so they generally act in accordingly. I'm used to police killing black men.
Moi, j'ai malheureusement l'habitude de voir la police tuer des hommes noirs. Et les gens ici savent que c'est un problème, que ça arrive. Ce système est fondé sur des préjugés racistes. Et on essaie de faire en sorte que les gens voient la sécurité différemment. Qu'ils comprennent que tout n'a pas forcément besoin d'être traité par la police.
Est-ce que vous vous considérez comme une véritable alternative à la police au sens où on l'entend traditionnellement ?
On est une alternative imparfaite. Ça nous arrive de surprendre des malfaiteurs en flagrant délit, que ce soit des tentatives de cambriolage, des intrusions dans des jardins, des vols de voitures, ce genre de choses. Mais notre approche est très différente de la police. Nous, on parle avec eux, c'est tout. On leur dit hey, « on peut vous aider, vous n'êtes pas censé faire ça ». On n'est pas naïf, on sait bien qu'ils sont là pour voler. Mais on joue gentiment les idiots. Mais en même temps, on est des témoins et ça, ils le savent. Du coup, quand ils nous voient, ils ont juste envie de décamper. C'est ce qu'il se passe à chaque fois. Ils partent et parfois même, ils s'excusent.
Qu'est-ce qui se passe en cas de fusillade ? S'il y a des coups de feu dans ce quartier, comment vous réagissez dans ce cas-là ?
Quand on entend des coups de feu, on va vers les coups de feu. Notre but, ce n'est pas nécessairement de nous retrouver en pleine fusillade. C'est plutôt d'aller réconforter les habitants qui viennent de vivre la situation et voir s'il y a des blessés à soigner.
Very often gunshots. Last summer, I can tell you, our typical night would be.
Il y a beaucoup de coups de feu. L'été dernier, chaque soir, notre routine, c'était un coup de feu toutes les 15 ou 30 minutes. Ils tirent et ils s'enfuient. Quand on arrive, bien avant la police, les tireurs sont déjà partis depuis longtemps. On parle aux gens, on reste là une trentaine de minutes, et les gens se sentent beaucoup plus à l'aise, en sécurité, que s'ils avaient appelé la police.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « Oui, mais en faisant ça, vous contribuez à augmenter le taux de criminalité et l'insécurité dans la ville ?»
La police n'empêche pas le crime ni la violence. Ils sont là pour répondre après qu'il se soit passé quelque chose. Nous, on n'appelle pas la police, même quand on est témoin de quelque chose d'illégal, sauf si la vie de quelqu'un est menacée. La raison, c'est pas que nous voulons que le type s'en tire et récidive, c'est plutôt parce que l'on n'aime pas non plus le système de justice. On ne veut pas les envoyer dans un système qui va les traumatiser, les blesser, et en fera d'encore meilleurs criminels une fois sortis. Tout ça en enrichissant l'industrie carcérale. Depuis les années 70, notre population carcérale a été décuplée. Ce système est raciste également et on refuse de participer à ça. Et si pour montrer qu'on ne veut pas contribuer à ça, il faut cesser d'appeler la police, moi ça me va.
We want change.
Cette promesse d'un futur sans police est venue de la mairie de Minneapolis elle-même, au lendemain de la mort de George Floyd. C'était cet été, lors d'une manifestation d'activistes afro-américains anti-police, dans un parc, devant plusieurs centaines de personnes et une large bannière « Defund the police ».
Nous nous engageons à en finir avec cette relation toxique entre notre ville et son département de police et d'en finir avec la police telle que nous la connaissons.
9 des 13 élus de la ville, soit la majorité du conseil municipal, promettent de démanteler le MPD et de couper ses fonds en transférant ses 200 millions de dollars de budget annuel à des organismes sociaux. Selon les élus, le Minneapolis Police Department est trop raciste pour être réformé. Les États-Unis sont alors secoués par une vague de contestation inédite depuis des décennies et l'image fait le tour des médias américains. En pleine campagne présidentielle, les 9 élus de Minneapolis sont immédiatement moqués par Donald Trump. Ces gens sont complètement cinglés, lance Donald Trump devant ses partisans. L'ancien président fait même du slogan « Defund the police », l'un de ses arguments favoris pour accuser les démocrates de laxisme. En plein meeting, Trump va jusqu'à faire monter sur scène Bob Crowell, l'ancien chef du syndicat de la police de Minneapolis, aux méthodes ultra contestées. Dix mois plus tard, le procès de l'ex-policier Derek Chauvin, responsable de la mort de George Floyd, s'est ouvert à Minneapolis. Et nous retrouvons l'un de ces 9 élus du conseil municipal qui avait promis de réduire les financements de la police. La mairie n'a toujours pas voté le démantèlement du MPD, mais Steve Fletcher croit toujours qu'une autre police est possible.
Le défi est encore là. Je ne vois aucun signe qui me fait dire que la culture au sein de la police a changé, ou que le département de police a pris au sérieux les préoccupations soulevées par la population. Donc oui, je continue de penser qu'on doit réduire notre dépendance envers les forces de l'ordre. Et c'est le travail qu'on fait en ce moment. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça prend du temps, mais c'est en cours.
À l'époque, quand vous avez fait cette promesse, vous ne saviez pas exactement quelle forme prendrait ce futur sans police. Est-ce que vous avez une idée plus précise maintenant de ce que pourrait être cette nouvelle forme de sécurité publique ?
Oui, ce qu'on fait déjà, c'est d'offrir une réponse autre que la police à chaque fois qu'on le peut. Par exemple, pour les appels liés à des problèmes de santé mentale. Maintenant, nous envoyons des professionnels de santé mentale plutôt que les forces de l'ordre pour répondre à ces appels. C'est un changement important pour nous. Quand quelqu'un appelle pour déposer plainte, pour déclarer un vol à son assurance, on n'est pas obligé d'envoyer des gens armés. Le vol a déjà eu lieu, il n'y a pas de danger. On peut envoyer un autre type de fonctionnaire pour s'occuper de cette partie administrative. Donc on établit de nouvelles formes de réponse. Et d'ici cet été, 15% des appels qui étaient traités jusqu'ici par la police le seront désormais par d'autres employés de la ville. Par ailleurs, on est beaucoup plus attentif au recrutement des policiers. On fait une évaluation psychologique beaucoup plus rigoureuse maintenant. Et ça exclut des gens. Je me souviens avoir lu un rapport vieux de plusieurs années qui demandait aux policiers pourquoi ils avaient choisi ce métier. Et beaucoup répondaient que c'était parce qu'ils voulaient juste utiliser leur arme. Il y a des gens que la violence excite. Et ça, c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on essaye de les passer au crible. On ne réussit pas toujours, mais on essaye.
Est-ce que vous pensez que le procès de Derek Chauvin va changer cette culture au sein de la police ?
Le procès changera seulement les choses si nous, en tant que leaders, agissons pour les changer. Il n'y aura rien d'automatique. Il y a eu des procès dans le passé. Il y a eu d'autres cas importants de personnes tuées par la police que nous avons acceptées en tant que société, comme faisant partie d'une situation de fait. Et on a continué après ça sans rien changer. Donc rien ne dit que ce procès changera quoi que ce soit.
À Minneapolis, certains habitants n'ont pas attendu les réformes politiques. Depuis cet été, la police ne s'aventure plus entre la 38e et Chicago Avenue. Il s'agit pourtant d'un des quartiers les plus criminogènes de la ville, mais c'est aussi l'épicentre de la contestation, là où George Floyd a été tué. Sur ces quelques blocs rebaptisés George Floyd Square et proclamés zone autonome par les activistes de Black Lives Matter, la police n'est pas la bienvenue. Pour l'empêcher d'entrer, des barricades filtrent toutes les rues qui mènent au Cup Food, cette supérette où tout a commencé quand l'un de ses vendeurs a composé le 911 pour accuser George Floyd d'avoir payé ses cigarettes avec un faux billet de $20. Sur l'une de ces barricades, Frank, militant anti-police d'une trentaine d'années, contrôle toutes les voitures et ne laisse passer que les résidents. Ce chômeur indien natif américain tient cette barricade tous les après-midi bénévolement et pour la police, c'est défense d'entrée.
La première chose, c'est pas de justice, pas d'accès à la rue. Ils n'ont pas répondu à nos demandes. Quand ils le feront, on pourra commencer à discuter, voir si on ouvre la rue et en échange de quoi on l'ouvre.
Qui assure la sécurité dans ce quartier maintenant ?
It's kind of a big question.
Ça c'est une vaste question.
I would say that it's a community effort.
Je dirais que c'est un effort de toute la communauté. On dépense beaucoup de temps et d'énergie avec de bons résultats.
Mais la réalité semble contredire ce constat. Ce jour-là, George Floyd Square est bouclé, même pour les journalistes. Frank nous explique que le quartier est en deuil après une fusillade meurtrière. Un habitant vient d'être assassiné en pleine rue.
On est triste, bien sûr. On est en plein processus de deuil. Encore un deuil de plus pour nous. C'était l'un des nôtres.
Selon le rapport de police, la victime était en fait membre d'un gang appelé les Bloods. Selon de nombreux témoignages, les Bloods règnent en maître sur George Floyd Square. Cet Afro-Américain de 31 ans a été tué de plusieurs balles tirées à bout portant juste devant le Cub Foods, à l'endroit même où George Floyd a été tué lui aussi. Mais cette fois, la police n'est pas en cause. Le trentenaire a été tué par un autre membre des Bloods. Dans sa fuite en voiture, l'assaillant a déclenché une fusillade en pleine rue et essuyé des dizaines de coups de feu de riposte. La scène digne d'une fiction a été en partie filmée et donne une idée du niveau de tension qui règne au sein de cette zone autonome présentée par tous les activistes comme un sanctuaire pacifique, autogéré, une utopie sans police. Le soir du meurtre, c'est Kimberley, surnommée Medic Kim, l'infirmière activiste du quartier, qui a tenté de donner les premiers secours à la victime, atteinte de plusieurs balles au torse et à la main. Face à la gravité de ses blessures à contre-cœur, Medic Kim n'a eu d'autre choix que d'appeler la police pour évacuer la victime, qui décédera quelques minutes plus tard à l'hôpital.
J'étais obligée de faire ce choix. Pendant que je m'occupais du patient, j'ai demandé à quelqu'un d'appeler le 911. C'était une blessure traumatique et il fallait l'envoyer dans un hôpital avec une salle d'opération pour lui donner les meilleures chances de survie. Quelles que soient les réticences envers la police, la vie du patient reste la priorité. On s'occupera du reste après.
Kimberley, 42 ans, a rejoint la zone autonome après la mort de George Floyd pour apaiser, dit-elle, sa culpabilité de femme blanche face aux violences policières contre les Noirs. Militaire dans une autre vie, elle est depuis cet été infirmière volontaire sur George Floyd Square. En 10 mois, Medic Kim a déjà soigné 5 blessés par balle entre ces quelques rues. Au moins 3 d'entre eux n'ont pas survécu et malgré ces fusillades à répétition, Kim reste convaincue que la police doit continuer de rester en dehors du quartier.
Avant, c'était rassurant pour moi d'entendre une sirène. Ça voulait dire que les secours étaient en route. Désormais, je ne serai plus jamais rassurée en entendant une sirène. Je suis fermement en faveur du mouvement Defund the Police. Réformer, c'est juste une autre façon de la financer. On ne réforme pas un panier rempli d'hommes pourris. On ne peut pas les rendre à nouveau comestibles.
Ce discours d'activiste, certains à Minneapolis ne le supportent plus. C'est le cas de Don Samuels, ancien élu municipal de la ville, et de sa femme Sandra. Pour faire pression sur la mairie, ce couple d'Afro-Américains collecte des témoignages d'habitants inquiets de la hausse de la criminalité et de la baisse des effectifs de police depuis la mort de George Floyd.
Avant-hier, une amie nous a envoyé cette photo. Don, regarde, c'est le Cub Food. C'est ce magasin devant lequel George Floyd a été tué. Sur cette photo, on voit un homme sur le toit du Cub Food avec une kalachnikov. On ne sait pas qui c'est. L'ami qui nous envoie cette photo nous explique aussi que quand cet homme a été tué, ils ont commencé à tirer partout. Un de ses voisins a failli recevoir une balle dans la tête. La balle a traversé sa maison. Une petite fille jouait dehors, elle a failli être touchée. Et toutes leurs voitures ont été criblées de balles.
Another little girl was outside. She almost got shot, but they all had their cars bullet-ridden.
And these are supposed to be the protectors.
Et ces gens sont censés être les protecteurs, ceux qui défendent le quartier selon le récit des activistes. Certains activistes confondent loi des gangs avec les habitants qui assurent leur propre sécurité.
That is interpreting gang enforcement as the people policing themselves.
Right. I'm African American. My family, you know, were
Je suis afro-américaine. Je suis descendante d'esclaves africains. Mes parents travaillaient dans les champs dans le sud. L'héritage raciste de ce pays est le fondement même de ce pays. Et donc, nous voulons et nous demandons une réforme de la police. Cette police qui a nié notre humanité comme nous l'avons vu avec George Floyd. Mais nous avons besoin de la police et nous avons besoin de sécurité.
Our humanity. And we saw that with George Floyd, right? Mm-hmm. And we need police. And we need safety.
En attendant, les manifestations continuent devant la Cour de justice où se tient le procès de l'ex-policier Derek Chauvin. Ces manifestants rêvent que ce procès marque la fin de l'impunité policière aux États-Unis, mais à Minneapolis, tous en sont convaincus. Un verdict trop clément fin avril serait un retour à la case départ avec de nouvelles protestations comme au lendemain de la mort de George Floyd.
Après la mort de George Floyd, une autre police est-elle possible ? Un grand reportage d'Éric Desalves, réalisation Pierre Chaffange.